bonjour Monsieur Nayebi, bienvenue
bonjour,
à l'antenne de Radio Defus.
Merci.
L'équipe est vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Moi de même, je suis ravi d'être en votre compagnie pour quelques minutes. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions.
Oui, on va peut-être commencer par votre situation. Je sais que vous avez plusieurs titres à votre actif. Donc vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute, auteur, conférencier. Et voilà. Vous êtes aussi chargé d'expertise, j'ai vu, auprès de tribunaux pour enfants. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur vos fonctions?
Écoutez, effectivement, j'ai suivi des cursus d'études en neurosciences et en psychologie pathologique pendant une bonne dizaine d'années. Je me suis intéressé à la psychopathologie de la modernité, c'est-à-dire l'effet de la modernité sur notre psychologie. En travaillant sur des phénomènes modernes comme exil, hyperactivité, également le stress au travail, mais la cyberdépendance et des problèmes liés à l'usage des nouvelles technologies se sont imposés à moi d'une certaine façon dès la fin de mes études, dans la mesure où vraiment il s'agit de la modernité, il s'agit d'adaptation de nous autres à ces outils technologiques qui arrivent. Et j'ai commis quelques articles et livres, notamment celui qui est très connu, Cyberdépendance en 60 questions,
oui,
au sujet de ces problèmes-là.
Oui, tout à fait. Je l'ai d'ailleurs lu dans le cadre de mon travail et je trouve justement que la structure que vous avez choisie est vraiment bien dans la rédaction du livre parce que ça permet vraiment de structurer le texte et finalement tout le flot d'informations parce que c'est vraiment, comme c'est un sujet récent, on a tout à découvrir et voilà, tout ce flot d'informations se fait vraiment très bien, quoi. Donc,
dans cette structuration, je me suis inspiré de mes patients. Des membres de leur famille, des sollicitations qu'il y avait, les questions qui m'étaient posées. Mmh. Et cette structuration-là est une structuration quasi naturelle, c'est-à-dire les questions qui viennent direct de la part des patients qui sont adressées à un praticien.
Ah oui, d'accord, donc c'est un livre qui touche, qui intéresse surtout à le public des parents.
Alors, ce livre-là, il ne faut pas oublier que, en définitive, ça date un petit peu maintenant. La parution, c'était en 2007, mais l'écriture s'est faite dans les années 2005-2006. C'est un livre qui reste d'actualité, c'est un livre qui est utilisé non seulement en France, mais dans quasi tous les pays francophones, dans la mesure où ce livre-là, c'était une publication majeure autour de ce sujet en français. Il y avait beaucoup de publications en anglais, mais en français, ça a inspiré pas mal de travaux de recherche et de thèse, et ça continue à jouir d'une notoriété suffisante dans le domaine.
D'accord. Et je suppose que vous avez eu beaucoup de réactions justement par rapport aux internautes et aux médias aussi qui ont lu votre ouvrage. Et même au niveau mondial justement, vu que c'est sorti en plusieurs langues, c'est le livre, les réactions, c'est quoi?
Écoutez, les réactions ne manquent pas. Les réactions sont quasiment quotidiennes. Ça va du simple lecteur du livre aux parents qui ont vu des reportages télévisés ou qui m'ont entendu de la radio, qui demandent de conseils. J'aimerais être plutôt plusieurs personnes pour pouvoir répondre à toutes les questions. Malheureusement, c'est pas possible, mais entre-temps, ça a fait quelques émules. Un certain nombre de praticiens qui ont rencontré également ce problème-là ont publié sur la question. Et du coup, ça me fait un peu moins de charge de travail, mais en effet, les réactions étaient et sont toujours nombreuses.
D'accord. Et donc, vous avez dit que vous étiez spécialisé dans Internet et les adolescents avec l'addiction à Internet. Et pourquoi, en fait, vous êtes justement spécialisé dans ce domaine? C'est un peu cette problématique naissante qui vous avait donné envie d'en connaître un peu plus.
Écoutez, le psychisme, le psychologue que je suis, c'est un peu mon champ de travail. Le psychisme évolue. par rapport à l'époque, par rapport à la société. Et la société n'est pas sans incidence sur notre psychisme, sur notre fonctionnement cognitif et sur l'ensemble des liens que nous avons avec la société. Évidemment, avec l'arrivée d'Internet et les nouvelles technologies de communication, il y a eu une mutation quasi profonde dans tous ces domaines-là. Or, le chercheur qui s'intéresse à cet effet-là ne peut pas ne pas recevoir autant d'indices venus de tout part. Et également, il y a une historique universitaire. Ce travail sur Internet, c'est quelque chose qui date d'un projet universitaire que j'avais déposé à l'université. Au début de mon livre, j'explique bien ça, qui n'a pas vu le jour tel que je l'avais envisagé à l'époque. Mais qui s'est transformé avec l'arrivée massive des patients, des témoignages, des journalistes aussi, des demandes d'information. Et autour de ça, donc, s'est créé un corpus clinique autour de ces moyens de communication.
D'accord. Et sinon, plus concrètement, au niveau du public que vous recevez à votre cabinet, vous recevez des gens de quel âge environ, plus des garçons que des filles? Le type d'addiction à Internet, c'est dans quel domaine en général?
Les patients sont un peu de tout venant, si vous voulez, adultes et enfants, adolescents. C'est une situation tout de même assez spécifique et je voudrais pas jouer d'extension sur d'autres praticiens qui ont leur spécialité propre, qui voient les enfants, les adultes ou traitent plutôt du jeu ou du jeu pathologique. Ayant une certaine notoriété que vous avez signalé autour de ça, une certaine expertise, j'ai dû en définitive recevoir toutes sortes de demandes en consultation et recevoir des gens de 7 ans à 77 ans, si vous voulez. Au niveau de la répartition de ma patientèle, il y a des profils qui se dégagent, vous avez raison de le signaler. Là, on va parler de jeux, donc au niveau des jeux, c'est vrai qu'on a des adolescents pas mal, et c'est souvent des consultations qui sont initiées par les parents ou les proches. Par contre, par exemple, quand vous allez du côté d'autres types de cyberdépendance et usage problématique d'Internet, lorsqu'il y a dépendance, par exemple, au chat, aux réseaux sociaux et autres, ce sont plutôt des jeunes femmes de 20 à 40 ans. Par contre, lorsqu'il s'agit de dépendance à la pornographie sur Internet, c'est 9 fois sur 10 un homme âgé de 23-24 pour le plus jeune jusqu'à 50 ans pour le plus vieux. Donc, si vous voulez, le profil varie en fonction de l'usage problématique de l'Internet.
Ah oui, d'accord. Et comment vous avez dit qu'en général, c'était les enfants, les adolescents venaient plutôt, enfin étaient plutôt poussés par les parents pour venir chez vous, mais il y en a certains qui viennent de leur plein gré, qui se rendent compte vraiment
Chez le joueur pathologique, non. Il y a un problème avec la cyberdépendance au jeu qui est vraiment caractéristique, c'est le déni.
Oui.
C'est-à-dire que les joueurs qui ont un problème avec le jeu sont dans le déni de leur problème. Ils ne reconnaissent pas leur problème. Mais une fois que ces consultations sont agencées par des proches, en définitive, au bout de quelques séances, ils arrivent à en parler et à bien en parler. Mais je pense que cette prise de conscience n'est pas encore assez avancée pour qu'une consultation soit agencée spontanément de la part du joueur.
Okay.
Par contre, il y a une évolution, par exemple, du côté des dépendants à la pornographie. Là, par contre, ça fait deux ans, trois ans qu'on voit arriver des patients de leur propre gré, sans qu'il y ait une menace de divorce ou rupture, sans qu'il y ait une injonction judiciaire ou quoi que ce soit, de façon spontanée, les jeunes adultes ou les moins jeunes adultes arrivent à venir consulter, mais lorsqu'il s'agit des adolescents et des jeunes adultes, malheureusement encore, à mon sens, l'information n'est pas bien avancée, et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que votre initiative est intéressante de diffuser de l'information au sujet de ces problèmes-là. Pour l'instant, on n'a pas une demande spontanée de prise en charge en suivi psychologique.
Tout à fait, surtout que j'ai eu beaucoup de réactions justement des jeunes qui disaient que voilà, les journalistes en parlaient vraiment de manière négative et qu'il n'y avait jamais de solution. Donc c'est aussi pour ça que moi je pense que la prévention c'est une bonne méthode, mais qu'à partir d'un moment donné, ça dépend des personnes, il faut peut-être passer par la consultation. Alors où vous mettez la limite un peu entre la prévention et la thérapie? Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi à envisager?
La prévention est la clé. Je pense qu'on aura beau à vouloir pousser l'aspect thérapeutique de la problématique, il y aura beaucoup trop de personnes à soigner une fois qu'ils seront en difficulté. C'est pas une solution. J'ai toujours basé, et d'ailleurs c'était un petit peu le sujet de ma publication majeure autour de ça, la question autour de la prévention. Moi je préfère que les jeunes ne tombent pas dans cette addiction, qu'ils aient les moyens de réagir, que par la suite les prendre pour leur faire une psychothérapie. La prévention est donc la clé. Et la prévention passe par la diffusion de l'information. Il n'y a pas de prévention par l'opération de Saint-Esprit. Les journalistes, j'en ai côtoyé beaucoup sur ces questions-là, font ce qu'ils peuvent. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas les médias autour de cette question-là, et notamment dans un pays réfractaire comme la France, on n'en aurait toujours pas parlé de ça.
Donc,
on doit un sacré coup un chapeau bas à tous ces journalistes, à tous ces médias qui ont évoqué le problème alors que les autorités sanitaires sont restées muettes autour de cette question-là. Seulement, un journaliste n'est pas un spécialiste. Un journaliste va traiter souvent de la phénoménologie que du thérapeutique, parce que c'est pas son travail. C'est à l'intervenant thérapeute, et nous ne sommes pas nombreux à être spécialisés là-dedans, malheureusement encore, de pouvoir proposer avec des messages courts, s'il est possible. Les temps sont souvent réduits dans des types d'interventions médiatiques, de donner des pistes de réflexion. Mais pour l'instant, les choses s'arrêtent là. Nous sommes au balbutiement de cet événement-là important, et on ne peut pas s'attendre à ce que le journaliste remplisse un rôle qui incombe aux autorités politiques, scolaires et scientifiques.
Et vous pensez que les politiques, justement, enfin les autorités, pourraient un jour mettre en place justement des cours, enfin des actions de prévention, par exemple dans les écoles, dans les lieux où il y a justement beaucoup de jeunes, de publics qui pourraient à risque, justement?
Parce que... Écoutez, en principe, ils doivent le faire, mais la prise de conscience commence à se montrer. J'ai vu du côté de Belgique ou en France ou même chez nos amis suisses, il y a eu des prises de conscience auprès des élus qui non seulement ont organisé des manifestations autour de ça, des journées d'information et autres, mais également se font un petit peu porte-parole d'un certain nombre de parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ils posent des questions. Il y a des rapports parlementaires également, aussi bien en Belgique qu'en France, autour de cette question-là. Donc je pense que tout ceci va dans le bon sens. Après une longue période de sommeil, arrive un peu le réveil. Le réveil est difficile, le problème s'est installé. Mais je pense que tout ceci nécessite du temps et des moyens. Il faut que vos éditeurs sachent que la promotion de ces nouveaux moyens de communication la promotion reste facile et les publicités sont nombreuses parce qu'il y a un modèle économique qui engendre beaucoup d'argent, mais la prévention ne fait pas gagner un copec à qui que ce soit. Donc, il y a moins de propension, naturellement, dans des sociétés de type capitaliste libéral, de vouloir faire du volontariat autour de la prévention.
D'accord. Et je me suis posé aussi la question par rapport aux parents, parce qu'il y a quand même les spécialistes comme vous peuvent justement avoir un rôle super important dans le processus de guérison d'un jeune. Et nous, on peut justement, des bénévoles, faire de la prévention, mais les parents qui sont justement eux au quotidien avec leurs enfants, quel est leur rôle par rapport aux enfants? Comment les aider à comprendre un peu toute cette problématique-là, tout nouveau pour eux.
Écoutez, je pense que là, vous soulevez une question très importante qui va occuper sociologues, psychologues et politologues dans les 20 années à venir. Mmh. Aujourd'hui, il est impossible d'être parent comme on a été parent il y a 20 ans. C'est terminé, ça. Et personnellement, j'ai posé un petit peu le concept et par la suite, ça a été pris, le concept de l'éducation numérique.
Ah, mmh.
Voilà. Il n'est plus possible, à l'intérieur d'une éducation de type traditionnel, que ça soit laïque, religieuse ou quoi que ce soit, traiter de ce problème-là. C'est impossible. Donc, désormais, lorsqu'on dit l'éducation des enfants, on entend également l'éducation numérique des enfants. Ça, vraiment, on aura beaucoup de travail, à mon sens, dans les années à venir, pour faire passer l'idée. Il ne suffit plus de dire à un enfant, n'accepte pas le bonbon du monsieur dans la rue, et ne fais pas attention. Ce n'est pas possible, maintenant le monsieur n'est pas dans la rue, c'est dans la chambre de l'enfant, il ne propose pas de bonbons, il propose d'envoyer une casquette avec je ne sais quel logo dessus et demande seulement à l'enfant par exemple de poser fournir un fichier de renseignement, répondre à une sorte de questionnaire très détaillé des habitudes de consommation de la famille, y compris la banque de papa et de maman et tout ça, et recevoir des gommettes plus tard, si vous voulez. C'est terminé, cette affaire-là. Donc, l'éducation numérique fait partie de l'éducation, et ça doit commencer très tôt. Je pense que dès l'âge de 3 ans, avec les premiers jeux, l'ADS et compagnie, il faut commencer à apprendre à l'enfant que jouer, c'est pour s'amuser, c'est pas pour se rendre malade. Mmh. Il faut que l'enfant apprenne que cette chose-là se contrôle.
D'accord,
le temps de jeu est un temps qui doit être contrôlé, qui doit être au moins égal à un temps d'activité en réalité, ainsi de suite. Le sujet est vaste et je ne fais pas qu'en parler dans les médias. Dans quelques mois, vous allez voir l'arrivée d'un livre qui va très précisément et à tous les détails traiter de la question et dire aux parents à chaque tranche d'âge comment réagir. Pour l'instant, la génération des parents actuels est très contente de se servir d'Internet et envoyer des SMS sur son gadget, mais il ignore parfaitement les dangers, les problèmes qu'il peut avoir dans un usage excessif de ces moyens qui restent, disons-le tout de suite, des moyens utiles, nécessaires et formidables. Et il n'est pas question jamais de faire le procès de la technologie, mais mettre en garde contre les usages nocifs qu'on peut en avoir.
D'accord, donc c'est une éducation numérique que l'on verra dans quelques années, c'est bien ça?
L'éducation numérique, ça commence maintenant et ça va durer dans 2 générations à mon sens, parce que la technologie évolue beaucoup, nous allons arriver vers Web 3.0, donc la réalité augmentée, la possibilité pour les enfants de s'immerger réellement dans des univers et enfin, je veux dire fortification des réseaux sociaux et autres, avec l'arrivée du web sémantique. Je pense qu'il nous faut 2 générations pour attraper le coup. La technologie avance beaucoup plus vite et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que la culture.
C'est ça, en fait, il y a un gros fossé du fait de l'avancée rapide de cette technologie entre nos 2 générations, quoi.
Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ce que j'essaie de dire par là. Jusqu'à maintenant, les êtres humains inventaient des objets et prenaient le temps d'inventer des cultures autour des objets. Mmh. Prenaient le cas d'un simple masque, ils prenaient un bout de bois, avec du charbon, ils dessinaient des yeux, ils mettaient une pierre, 2 oreilles et un peu de peau de bête. Ils inventaient des danses, des rituels, des chants, des poésies, des offrandes et autres autour de ça. Et il y avait immédiatement le temps nécessaire à la création d'une culture autour de l'objet. Mm-hmm. Avec la nouvelle technologie, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut parler de, par exemple, de la culture récente de l'automobile. Vous savez, il y a une culture automobile.
Oui.
Depuis les portables et compagnie, ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de créer une culture. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent qu'on peut écouter la musique sans écouteurs dans le train. Vous avez des gens qui pensent en criant plus fort, l'autre au bout de chaîne entendra mieux. Il n'y a aucune culture autour de ça. Les élèves qui envoient des SMS les uns aux autres pendant les heures de cours et tout ça. Par contre, dès que vous mettez un peu de temps pour aller changer votre téléphone mobile, vous recevez 36 000 SMS de la part de l'opérateur qui dit votre appareil est dépassé. Oui. Et si vous ne venez pas changer, vous pouvez perdre l'usage de vos points avant telle date, ainsi de suite. On est quasiment poussé à avoir toujours des objets de plus en plus sophistiqués, oui. Mais il n'y a pas de culture d'objets.
Voilà, c'est ça.
Voilà, ça va être l'ère du rattrapage, je dirais. Nous sommes obligés de produire de la culture pour ces objets-là, car sans culture, évidemment, autour des objets, ben, les objets peuvent devenir assassins.
Ah ouais, mais ouais, la culture, c'est encore un tout autre sujet qui est tout aussi important et qui rentre pourtant en compte, là, comme je viens de l'entendre. Sinon, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent un peu s'imaginer ce que représente une thérapie par rapport au jeu, vu qu'on est maintenant dans le jeu, quel est en fait votre but principal que vous essayez d'atteindre lors de vos thérapies? Vous visez plutôt l'arrêt définitif du jeu ou vous essayez de lui apprendre à gérer modérément le temps de jeu?
Alors, les profils sont différents là-dessus, si vous voulez. Nous n'avons pas la même propension d'une personne à l'autre à devenir addict. La première chose que je fais, moi, je vais me rendre compte si la personne a un problème.
D'accord.
Parce que ça paraît simple, mais en définitive, aujourd'hui, malheureusement, encore tout est confondu. On peut avoir un usage immodéré sans être dans l'usage dépendant.
Oui, il suffit de pouvoir faire la différence entre le monde réel et le virtuel.
Oui, ça c'est un petit peu dans ça, on va progressivement y arriver. Vous avez l'usage excessif, vous avez l'usage abusif, vous avez l'usage compulsif, et après vous avez l'usage dépendant.
D'accord, oui.
Donc il faut vraiment déterminer ça, parce que la maman qui s'inquiète parce que le jeune taciturne ne passe pas longtemps avec elle mais dans sa chambre avec ordinateur, et n'est peut-être pas dans le vrai. Peut-être que le jeune n'a pas de problème de dépendance. Peut-être que c'est autre chose. Donc, si vous voulez, la première chose, pour en revenir à votre question, c'est de bien déterminer s'il y a un problème ou pas. Ou il y a d'autres problèmes, mais plutôt c'est aisé de dire qu'il y a un problème avec l'ordinateur. Dans un deuxième temps, lorsque je détecte qu'il y a un problème, ça consiste à le faire signaler à la personne qu'il y a un problème. Parce qu'en dehors des rares cas où la personne a conscience de ses problèmes, il y a un rejet du fait que j'ai un problème. Les jeunes me disent, vous voulez quoi? Vous voulez que j'aille avec les copains boire de l'alcool ou fumer du cannabis? Je suis là, chez moi, je joue, j'embête personne, donc moi j'ai pas de problème. Vous avez d'autres qui disent, mais moi j'arrête quand je veux. Ainsi de suite. Évidemment, tout ça, c'est pas vrai, parce que lorsque la cyberdépendance méchante s'installe, c'est beaucoup plus dangereux parfois que l'ensemble des addictions, parce qu'il y a la déscolarisation, il y a la perte de capacité affective et autres. Mais donc, dans ce temps-là, il faut démêler le vrai du faux. Il faut leur démontrer qu'en définitive, non, il faut prendre conscience. Ils sont souvent eux-mêmes étonnés lorsque je leur demande de me faire un petit peu la somme des heures qu'ils passent. La première séance, ils vont me dire « Oh, 4, 5 heures, 6 heures, 10 heures. » Après, je leur donne un papier, je leur demande de remplir. Bah, ils viennent et ils me disent « Oh, 25 heures, vous aviez raison, c'est un peu plus, j'y croyais pas. » Mais enfin, moi, quand j'entends ça, je sais que c'est plutôt 45 heures. Des choses comme ça. Donc, il s'agit d'abord cognitivement de leur démontrer qu'il y a un problème, qu'on rêve pas. Donc le diagnostic il est bien établi. Dans un deuxième temps, donc une fois qu'il y a prise de conscience, d'essayer de détecter là où ça coince, les conditions dans lesquelles la compulsion survient, les conditions dans lesquelles, je veux dire, la personne perd le contrôle de son usage et autres. Et dans une phase comportementale, je leur apprends à rectifier cela. Et puis il y a un temps final, si vous voulez, j'abrège beaucoup, mais dans un temps final, ça consiste à voir pourquoi. Et ça, c'est une question très importante.
Oui, vous voyez vraiment
un aspect analytique de notre travail. Quel est le conflit sous-jacent qui fait que la personne va se réfugier dans le jeu? Quels sont les bénéfices de ce jeu-là? Et ce genre de choses. Alors donc, le but poursuivi, c'est pas l'arrêt total et définitif de recours à l'ordinateur. Ce genre de radicalité, à mon sens, est voué à l'échec. De même que chez une boulimique, je peux pas l'obliger de vivre dans un monde où il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de boulangerie. Enfin, le monde sans bouffe n'existant pas, je peux pas, dans la société d'aujourd'hui, amener les jeunes ou les moins jeunes de vivre dans une société là où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de technologie. Donc, il y en a partout. Donc, il s'agit tout simplement, ce que dans mon livre j'appelle hygiène de consommation, il s'agit de leur apprendre comment garder le contrôle tout en utilisant ces moyens-là. Comment ne pas perdre le contrôle, c'est-à-dire avoir des distinguos, des repères, des réactions, des bonnes réactions, j'espère, qui leur permettent de ne pas tomber dans l'engrenage de la dépendance. C'est ça le but de la thérapie de cyberaddiction. C'est juste reprendre les choses en main. Le contrôle perdu doit être instauré.
Et en général, une fois que le contrôle est repris par le patient, est-ce que sur le long terme, ça continue à être efficace ou est-ce qu'il rechute?
Si la thérapie est bien faite, en dehors d'un, je veux dire, des situations exceptionnelles, des traumas et autres, ça tient. Moi, mes premières thérapies qui datent maintenant, je ne suis pas de la première jeunesse, ça tient toujours. Pour une raison très simple, c'est que, si vous voulez, une fois qu'on a réalisé qu'en définitive, on a pris beaucoup de risques inconsidérés et que c'est pas parce que c'est un écran que c'est pas dangereux, on ne tient pas à perdre pied, on tient à sa santé. Et puis la chance que nous avons avec les addictions sans drogue, c'est qu'en définitive, évidemment, nous avons le phénomène de manque chez ces joueurs-là, mais ce sont des phénomènes de manque qui ne sont pas étayés par un appel organique.
D'accord.
C'est-à-dire un héroïnomane va avoir des tremblements, des maux de ventre, des céphalées, des choses qui sont insupportables, si vous voulez. Mais le cyberdépendant, il va y avoir de l'irritabilité. Une fois contenu, on en fait le tour. Et puis, encore une fois, la thérapie doit être une thérapie adaptée. Moi, j'ai pris en charge encore la semaine dernière un jeune homme qui avait été vu pendant 2 ans par une psychanalyste qui lui avait parlé que de sa mère. Il était encore plus dépendant que quand il y était entré. Donc, il m'a demandé combien de temps, je dis plus ou moins 6 mois, mais une thérapie qui ne fonctionne pas au bout de 6 mois, il faut en changer, il faut changer de thérapie, il faut changer de technique. Vous voyez, donc si, moi je pense que les psychothérapies bien faites ont vocation en tout cas à tenir dans la durée.
D'accord. Voilà, donc vous aviez dit que quand lors des thérapies, vous cherchiez en fait le problème en fait qui était sous-jacent. Le fait qu'il joue beaucoup d'heures comme ça, ça reflète souvent un malaise intérieur. Et en général, est-ce que c'est des malaises plutôt qui concernent le domaine de la famille ou de l'identité?
Oui, enfin moi, les troubles d'identité, si vous voulez, sauf si on est dans l'acception générale de la psychiatrie qui considère que tout problème psychologique est un problème d'identité, mais au-delà de ça. Oui. Pour moi, ce sont là des problèmes plutôt des pathologies narcissiques, c'est-à-dire que le plus souvent on trouve des signes un petit peu de troubles de confiance, de manque de confiance en soi, une mauvaise image de soi dégradée, une propension à s'ennuyer. Les enfants, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui s'ennuient rapidement sont plus sujettes à cela parce que c'est un moyen d'évasion et ça fait passer du temps. Donc on trouve des occurrences historiques de l'individu autour des relations familiales et de la façon dont la personne a appris à gérer ses émotions. Souvent, ces personnes-là n'ont pas été, on va dire, considèrent qu'ils n'ont pas eu leur part dans la famille, si vous voulez. Mm-hmm. Et ils pensent que c'est ça qui ne leur a pas permis d'être à l'aise socialement. Et vous avez également une partie minoritaire. C'est souvent le cas des enfants uniques. Eux, par contre, eux-mêmes, ils considèrent qu'ils ont été trop gâtés et ils n'ont pas eu d'épreuves, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de confiance en eux, parce que s'ils avaient des frères et sœurs et qu'ils se battaient dans une rivalité et tout ça, ils auraient été mieux lotis comme leurs camarades, alors que là, ils avaient les parents tout le temps pour eux-mêmes, ainsi de suite. Donc, vous avez ce genre de construction de la part de nos patients. À chaque fois, pour nous, ça consiste à aller là-dedans, en démontrer la pertinence ou en invalider une partie ou la totalité. Mais ces conflits sous-jacents se passent toujours autour des troubles de l'image de soi, ce qui n'est pas vraiment identitaire, mais qui est plutôt narcissique.
D'accord. Et on parle ici des jeunes, des patients, tout ça, mais les parents viennent-ils aussi vous voir pour avoir des conseils? Enfin, quel est votre rôle par rapport à eux? Est-ce que c'est...
Écoutez, tout dépend, si vous voulez, parce que il y a les sensibilités, je dirais, de la personne, et de la famille, le milieu socio-culturel et autres par rapport à ça. Moi, si je considère qu'un jeune va se sentir persécuté si je vois ses parents, parce que je leur promets la confidentialité professionnelle, si vous voulez, alors, tout simplement, de temps en temps, je donne des retours aux parents pour dire les bonnes démarches à avoir, les bonnes choses à faire à la maison pour que ça marche bien, la thérapie à la maison, si vous voulez. Donc, je m'en tiens à donner des consignes, à leur apprendre des choses, mais je ne vais pas plus loin. Parfois, par contre, je vois que aussi bien la psychologie que l'historique familial appellent à ce qu'il y ait des réunions qui n'est en aucun cas une psychothérapie familiale, mais qui est une réunion quand même à l'intérieur de la psychothérapie du jeune, qui permet aux parents de rester connectés et à l'enfant de se sentir de nouveau considéré ou mieux considéré ou compris, parce qu'il y a des enfants qui pensent que leurs parents ne comprennent rien de rien. Donc il y a ces choses là donc vraiment il faut voir cas par cas. Dans le cas des adultes, un petit peu dans des difficultés de cyberinfidélité, sexe, du côté de cyberchat, achat pathologique et autres, pareil, je vois cas par cas. Il y a quand même, lorsque je sais, ça c'est systématique, que le conjoint ou la conjointe d'un cybersexe dépendant est au courant de sa dépendance, là, je demande à voir ce conjoint ou cette conjointe de temps en temps, parce que je pense que la restauration de la confiance dans le couple est compliquée, et que si on exclut l'autre de cette démarche de recouvrement de la santé, ça finira quand même par rupture. Donc, le fait de les inviter, de leur demander de prendre part, évidemment toujours en faisant attention aux confidences et à la confidentialité professionnelle, permet à ce que, je veux dire, le retour vers la santé de la personne soit considéré comme un projet de couple et pas comme un projet du conjoint fautif.
D'accord, il y en a beaucoup de cas comme ça avec les couples.
Oui, de plus en plus.
Ouais, et les d'accord. Et pour les parents qui nous écoutent, justement, quel est comme vous avez plutôt un rôle de conseiller, quel est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner aujourd'hui?
Les conseils sont nombreux autour de ça. Pour ceux qui ont des problèmes avec le jeu, je leur demande d'entrer dans l'univers de l'enfant, de jouer avec l'enfant. Lorsque le problème s'est déclaré, avant, je me suis dit en faveur de la prévention. Il y a des choses à apprendre dans cet univers-là. Mais pour ceux qui ont déjà connu des problèmes autour de ça, je leur demande de jouer avec leurs enfants, de connaître leur univers, de connaître les fréquentations, les sites qu'ils font, instaurer une relation qui n'est pas une relation d'exclusion à l'égard de l'univers de l'adolescent, mais qui est une relation, je dirais, de partage, au moins, d'un effort de partage de la part des parents. Ça, c'est important. Je demande également à chacun qu'il veille au respect d'un certain nombre de règles. Lorsque le jeune a un problème avec son temps de connexion, il est question pour les parents de venir contrôler là où le jeune ne peut plus contrôler. Donc là-dessus, en présence du jeune et en présence des parents, je dis voilà, donc je fixe des quotas et je demande à chacun de veiller au respect de ces choses-là. Je leur demande souvent également de proposer quelque chose aux jeunes. Parce que, évidemment, quand il a rien à faire, il s'ennuie à la maison, l'ordinateur est là. Bon, quand il a 14 ans, il ne va pas pouvoir faire du découpage non plus pour son papa. Donc, il faut proposer des choses. Je leur demande à ce qu'ils réfléchissent aux historiques, ce que le jeune a voulu faire, qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas pu faire, où il y avait la géographie, le temps, les moyens, tout ça. Je leur propose à instaurer, je dirais, un mécanisme dans lequel où le temps d'ennui du jeune est moindre, donc le recours à l'ordinateur et au jeu est moindre. Alors évidemment, alors je sais pas, j'ai par exemple récemment pris en charge une jeune fille qui faisait du sexe sur Internet, des choses comme ça. Ça reste quand même une adolescente. Là par contre, ce sont d'autres conseils que je vais pratiquer, pas seulement en termes de connexion, mais également en termes de respect d'un certain nombre de règles à l'intérieur de la vie familiale qui font qu'un certain nombre de non-dits doivent être évoqués, la sexualité doit sortir du tabou, des choses doivent être dites et les échanges devraient avoir lieu. Voilà. Donc, oui, si vous voyez, là, c'est aussi selon les profils, les parents, je leur prodigue des conseils.
Voilà, oui, donc ça dépend vraiment des domaines, en effet. Et je voulais avoir, pour conclure, un petit avis de votre part concernant les cabinets virtuels. Je sais que ça se fait, c'est quand même une méthode qui traite de la cyberdépendance, mais via l'ordinateur, donc l'objet, l'élément premier de la cyberdépendance. Est-ce que c'est une méthode qui marche, qui va de plus en plus se faire connaître.
Écoutez, le problème, il est un peu épineux. Le problème est un petit peu épineux parce que, c'est pas maintenant, mais c'était dans une interview en l'an 2000, j'avais prédit que l'avenir de la psychothérapie passerait par le net. Et je maintiens cette déclaration-là. Et ce qui arrive en ce moment avec profusion de cabinets virtuels sur Internet le démontre bien. Pour une raison très simple, j'ai un patient qui travaille à 40 km de Paris. Pour venir au cabinet, va mettre 2 heures dans les embouteillages. Va être ici 3 quarts d'heure et repartir pendant 2 heures dans les embouteillages. Il s'enferme dans son bureau. On a le son et l'image. On travaille. Il coupe et il aura gagné 4 heures de travail. Donc, il y a des raisons d'ordre pratique. Et je pense que ce mouvement-là est en marche et rien ne l'arrêtera. Je sais que, notamment du côté des psychanalystes acharnés, il y a une menace autour de ça à leurs yeux. C'est inutile, les amis, laissez tomber, vous n'arrêterez pas le mouvement. Je l'ai dit il y a 10 ans, je le dis, c'est l'avenir de la psychothérapie, ça passera par Internet. Donc, une fois cette chose étant dite, le problème va se poser autour de la qualification du thérapeute. Un vrai psy qui sait travailler, il n'a pas besoin de toucher son patient. Il peut travailler également sur les moyens de communication. Et ça ne posera aucun problème. Donc, un bon thérapeute, ça restera un bon thérapeute par téléphone, par Internet, au cabinet, même au sous-sol. Un mauvais thérapeute, il sera mauvais, y compris dans son cabinet. Donc, je pense que c'est un faux problème lorsqu'on évoque ça. Le vrai problème, c'est le problème de contrôle. Comment contrôler le thérapeute virtuel? Après tout, il n'est peut-être pas. Il n'a peut-être pas de formation.
Mais en fait, c'est tout un nouveau problème.
Il faut qu'il y ait une liste des vrais thérapeutes qui sont sur le net. Vous voyez, ça, les organismes d'État doivent s'en charger. Donc, c'est un métier, un nouveau métier qui doit être réglementé. Maintenant, L'autre question, c'est une question autour des cabinets virtuels qui relève de la bêtise empirique d'un certain nombre de commentateurs. Ils disent on ne peut pas soigner un alcoolique dans un bar, là où il y a de l'alcool. Donc, on ne peut pas soigner un cyberdépendant sur le net. Mm-hmm. Alors, le problème, c'est que depuis toujours, le métier de la restauration, en réalité, c'est un métier dans lequel il y a eu de l'alcoolisme, et depuis tout le temps, on a soigné des gens, ils ont continué à travailler dans la restauration. Donc, c'est une image simple, pour des esprits oui. simples, mais qui vise une chose bien déterminée, c'est d'essayer d'incriminer une certaine modernité de pratique, et qui, à mon sens, nécessaire. Personnellement, sur mon cabinet virtuel, j'ai arrêté de prendre le cas de cyberdépendance pour une raison très simple. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que en position d'expert, et en position de quelqu'un qui publie là-dessus, il risque d'y avoir confusion. On peut dire que il dit qu'il y a des cyberdépendants pour pouvoir les soigner sur le net. Il y a eu des entités, il y a eu des esprits complètement
stupides. C'est ceux qui cherchent la petite bête, en fait.
Voilà. Oui. Alors, c'est quoi le drame dans tout ça? Le drame dans tout ça, c'est que si le cyberdépendant, un jour, il a une prise de conscience spontanée et cherche de l'aide, il ne peut chercher ça que sur Internet. Mmh. Donc, je pense que si on doit aller chercher des gens qui sont vraiment dans une situation de détresse par rapport à la cyberdépendance, ça sera mieux de le faire sur le net que sur la télé ou je ne sais pas, sur d'autres médias ou dans des hôpitaux.
D'accord.
On va à l'hôpital, lorsqu'on ose sortir de chez soi, y en a qui quand même ne sortent plus de chez eux. Mmh. Vous voyez? Donc, on crie un peu au loup autour de ça. Vous avez beaucoup de tordus dans le Second Life et tout ça, qui se prétendent psy, qui font n'importe quoi. Et franchement, c'est eux qu'ils doivent aller voir le psy parce qu'ils sont dangereux.
D'accord.
Marteau. Bon, moi, je leur fais pas confiance. Mais un psychologue qui a un numéro de la Direction sociale des affaires sanitaires, un psychologue qui a des diplômes, qui a un numéro auprès des organismes, je veux dire, de conventions collectives et autres, bien affichés, vérifiables sur une liste valable, on doit y avoir recours et lui, il doit être présent sur le net pour aider les cyberdépendants.
Ouais, c'est vrai que c'est tout un sujet qui soulève quand même pas mal de questions. C'est pour ça que j'étais intéressée de connaître votre avis, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui sera assez indispensable pour l'avenir.
Donc, moi, je pense qu'on a besoin d'une autorité de régulation de la cyberthérapie, mais je pense que c'est l'avenir de la psychothérapie.
C'est d'accord.
Indéniable.
Eh bien, on verra.
Mettre de l'ordre dans le fatra, voilà.
D'accord, on verra tout ça alors dans quelques années, on repensera à cette interview. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci et bonne émission et faites-en d'autres. Voilà.
Ça va, mais merci beaucoup. Bonne journée à vous.